France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Et je pense qu'il y a aussi un travail à faire, je vous le dis en toute amitié, parce que c'est pas au président de la République de tout faire et c'est pas dans des rapports de force. C'est un travail qui se passe dans la société. Je pense que ceux qui veulent aujourd'hui défendre l'identité corse doivent aussi faire ce travail mémoriel et savoir dire les choses.
C'était donc jeudi, dernière étape de la tournée présidentielle du grand débat d'Emmanuel Macron, un tour de France en 80 jours, 14 réunions, combien d'heures passées à débattre, à écouter, à parler. Le grand débat est enfin terminé, Natacha, vous êtes soulagée?
Oui, c'est pas une question de soulagement, on n'est pas soulagé, on attend. C'est bien le problème, c'est que le grand débat est enfin terminé, qu'on est dans l'expectative la plus totale et qu'on a des signaux de la part des membres du gouvernement, de la part de tout l'entourage d'Emmanuel Macron, qui laissent penser qu'il ne sait absolument pas comment il va conclure tout ça. Et je crains que la seule conclusion qu'il trouve soit de nous remettre sa réforme institutionnelle qui était prévue, qui devait être mise en œuvre à partir de l'été dernier et qui a été remisée pour cause d'affaires Benalla. Et qui mériterait quand même d'être débattu un peu plus longuement.
Ça a été un bel exercice, mais qui s'est étiré longuement. On arrive au bout, il faut maintenant en sortir. La difficulté est de répondre à l'intensité des attentes de changement, eux-mêmes très contradictoires. Et c'est aussi pour Emmanuel Macron de retrouver les voies de la réforme avec un pays qui s'est quand même immobilisé depuis plusieurs mois. Et avec une question, c'est est-ce qu'il y aura un Emmanuel Macron 2 ou est-ce que ça va être la poursuite de Emmanuel Macron 1, est-ce que on va rester pour reprendre la formule que Emmanuel Macron vient d'utiliser avec un président de la République qui fait tout ou pas?
Avec le remaniement qui a eu lieu et qui indique des choses qui pour vous sont pertinentes, Gilles?
Qui indique que le président de la République a choisi de nommer des proches, de nommer des collaborateurs plutôt que des parlementaires. C'est une des difficultés aussi de La République En Marche, c'est de ne pas avoir réussi à faire émerger une génération d'élus.
Oui, du coup, il en est réduit à nommer des gens qui sont avant tout des communicants. Ce qui symboliquement...
Amélie de Montchalin est plus qu'une communicante.
Cédrico
aussi.
Pardon, mais ces gens ont des profils qui nous renseignent sur le fonctionnement d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y a en effet un problème d'ouverture politique et de capacité à faire émerger des figures qui soient des figures de poids. Ce n'est pas seulement lié au fait que La République En Marche est un mouvement jeune. C'est lié au fait qu'il s'est créé sur une dynamique qui était une dynamique qui mettait en avant des profils de gens tous semblables. Et du coup, il est très compliqué de piocher dans ces parlementaires des gens différents pour être ministre. Mais je reviens sur le débat. Sur le grand débat, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a utilisé ce débat pour, disons-le clairement, se refaire la cerise, quoi, après le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'il en a fait un exercice de communication et qu'il est excellent dans cet exercice-là. Politiquement, les attentes, elles sont pas si contradictoires que ça. Les attentes des Français qui ont adhéré à ce mouvement, je parle pas de ceux qui restent maintenant, hein, je parle au début, les 80% de Français qui ont trouvé que ce mouvement était intéressant. Je veux dire, ce qui émerge, c'est la question de la justice et la question institutionnel. Donc il faut réfléchir à réinsuffler de la démocratie. C'est ce que Emmanuel Macron ne va pas faire, hélas.
Gilles,
ça, attendons de voir. Les demandes sont... L'intensité de la demande de changement est incroyable. Je crois que je ne sais pas si je citais déjà ce chiffre-là la semaine dernière. 86% des Français qui disent on attend un profond changement de politique économique et sociale. C'est pas sûr qu'ils aient tous exactement en tête les mêmes changements, mais il y a une, et c'est pareil, à peu près les mêmes niveaux pour les réformes démocratiques et institutionnelles. Ce sont les deux grands chantiers sur lesquels le président de la République doit maintenant apporter des réponses.
Le tour de France d'Emmanuel Macron est donc terminé et la campagne pour les élections européennes a commencé. Coup d'envoi jeudi soir avec les têtes de liste qui débattaient sur France Inter et France 2.
J'ai bien compris que pour vous, c'était l'Europe, on la change ou on la quitte. Pour nous, c'est l'Europe, on y est
nous,
et on la change. C'est deux choses totalement différentes.
Nous n'acceptons pas, nous donnons les moyens pour la transition
totalement
écologique. Si j'ai été interpellé, je vais
répondre parfaitement.
Rapidement. Nous donnons les moyens. Comment faites-vous la transition écologique quand vous avez juste 3% de déficit?
C'était l'une des passes d'armes qui ont eu lieu au cours de ce débat. Passe d'armes entre Manon Aubry de la France Insoumise et Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts sur la construction européenne. 12 candidats, 12 têtes de liste pour un drôle de débat. Qu'en avez-vous pensé, Natacha ?
Je pense qu'il y a la question de la forme et la question du fond. Sur la question de la forme, il va falloir que nous, médias, nous réfléchissions à la façon dont nous pouvons mettre en scène correctement le débat public, le débat politique. Je suis scandalisée quand on évacue des candidats jugés petits parce que on estime qu'ils ne valent rien. Il me semble que ça empêche de renouveler les idées et de permettre de représenter l'ensemble du panel idéologique. Pour autant, 12 candidats avec cette espèce de côté concours de beauté et QCM, c'est consternant, ça ne permet pas de penser. Donc il faut tous ensemble réfléchir à la façon dont on s'y prend et s'il ne faut pas mettre en place éventuellement des débats qui soient, je ne sais pas moi, d'abord en tirant au sort et en faisant deux débats différents, en tirant au sort les candidats, ou alors en mettant en place quelque chose qui leur permette de s'exprimer un peu plus longuement. Et ensuite, sur le fond, je pense qu'on avait un problème dans ce débat qui est le fait que ces gens ont un bilan sur l'Union européenne. Et que là, il n'y en a plus un pour soutenir l'Union européenne telle qu'elle est. Hein. On entend il faut que l'Europe protège, arrêtons d'être naïfs. Il y a 5 ans, on se faisait traiter d'anti-européens, de nationalistes quand on disait ça. Je suis ravie qu'ils y viennent tous. Mais le problème est de savoir concrètement comment on fait évoluer.
Gilles.
Alors, je suis assez d'accord avec Natacha. Vous avez dit, Ali, que le débat... La campagne avait commencé, la campagne aurait pu commencer. Hier, c'était le premier grand débat avec, pour la première fois, l'ensemble des têtes de liste. Mais quand on le regarde, on voit que les conditions d'un débat, c'est-à-dire d'un échange d'arguments, ne sont pas réunies. On avait dit la même chose dans le grand débat avec les intellectuels et Emmanuel Macron, 67 personnes. Même si vous étirez ça pendant de longues heures, les conditions d'un débat ne sont pas réunies. Et je crois qu'il eût été plus intéressant, ou il sera plus intéressant, d'avoir 3 débats d'une heure et quart chacun avec 4 têtes de liste plutôt que ce débat.
Mais comment les choisir?
Que ce débat à 12, vous tirez au sort. Enfin, en tout cas, ça mérite une réflexion. Ce qui est certain, c'est qu'un débat comme cela ne permet pas de faire émerger ce que sont les enjeux de cette campagne. Et donc, le risque, c'est qu'on ait non seulement que la campagne n'a pas commencé, mais qu'elle ne commence jamais et qu'on ait des élections, mais qu'on ait des élections sans campagne et qu'au bout du bout, on ait des élections sans électeurs ou en tout cas sans autres électeurs que ceux qui s'intéressent de manière passionnée à la politique, c'est-à-dire moins de la moitié des Français.
Natacha ?
Oui, parce que par exemple, l'extrait que vous avez passé entre Manon Aubry et Yannick Jadot est très intéressant. En effet, la question de la transition écologique, ils sont tous écologistes là maintenant. Ils sont tous pour l'écologie.
Oui, c'est leur seul point commun.
Oui, à ceci près qu'en matière d'écologie, justement, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Il y a des pressions de la part de lobbies, il y a des rapports de force qu'il faut pouvoir expliciter pour que les gens se rendent compte exactement de la façon dont fonctionne le Parlement européen et donc de ce qu'on pourrait mettre en place pour réellement faire une transition. Manon Aubry essaye de faire valoir que dans les règles actuelles des traités, on ne peut pas mettre en place un grand plan d'investissement, ça, il faut le creuser. Il faut discuter de ce que serait une possibilité d'investissement. Qu'est-ce qui bloque ? D'abord la volonté allemande, ensuite le fait que les Allemands ont une puissance plus forte que la nôtre dans les institutions européennes. Enfin, vous voyez, il faut aller au bout de l'argumentation. S'il s'agit juste de s'écharper, je pense que là, les gens qui écoutaient n'en ont rien retiré.
Est-ce qu'on peut dire que l'un des candidats, l'une des têtes de liste, s'en est mieux sorti que les autres ? Ou est-ce que ce genre de classement, de notation n'a pas de sens?
Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de sens. Je pense que pour beaucoup de Français, je ne sais pas encore combien ont écouté cette émission et ont regardé cette émission.
Autour d'1 600 000, 1 800 000 personnes.
Ce qui, en soi, est un indicateur. Et ce qu'il faudra regarder aussi, c'est quelle est l'évolution au cours de la longue soirée du nombre d'auditeurs devant les téléspectateurs devant leur poste. Débat. Est-ce que quelqu'un a émergé? Je pense que ça a été pour beaucoup une découverte. Je pense que le Jordan Bardella, peut-être, a été, c'est difficile de le dire, mais a été assez bon.
Natacha ?
Oui, c'est-à-dire, mais là, on est dans le commentaire sur la forme, sur la capacité à s'imposer. En effet.
C'est le risque d'un débat quand il n'y a pas de débat.
Ben, voilà. C'est-à-dire que la seule chose qu'on peut dire au sortir de cela, c'est pas les arguments de telle liste sont intéressants, c'est en termes de combativité, de charisme, un tel s'en sort mieux qu'un tel. C'est tout de même dommage.
Et on peut retenir aussi les menottes sadomaso de François Asselineau, puisque chacun apportait un objet qui symbolisait l'Union européenne. C'était son choix, choix plutôt surprenant.
Oui, et personne n'a apporté, par exemple, le drapeau européen. Hein, si on veut brandir l'étendard, ça rejoint ce que disait Natacha tout à l'heure.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Dans l'actualité aussi, un parachute doré de 36,8 millions d'euros pour Tom Enders. C'est Proxinvest, la première agence française d'analyse de gouvernance, qui a calculé l'enveloppe globale que touchera le président exécutif d'Airbus lorsqu'il quittera son poste le 10 avril, c'est-à-dire mercredi prochain. Près de 37 millions d'euros pour cet homme, Tom Enders. Est-ce que c'est normal, justifié? Ou pas, Natacha ?
Alors, d'abord, il faut poser la question de plusieurs manières. C'est-à-dire, est-ce que c'est normal ou justifié ? N'importe quel individu normalement constitué dit non. Franchement, 37 millions à ce niveau-là, ça...
Mais il faut sauf rentrer le conseil d'administration les... d'Airbus qui a décidé de lui verser cette somme.
Tous les conseils d'administration, comme en général, chacun espère un jour être à peu près servi de la même manière. Enfin, tout ça se joue entre un petit groupe de personnes à l'échelle de la planète. Non, première question... Quel a été le rôle de Tom Enders à Airbus? Nous avons sorti un papier dans Marianne il y a 2 semaines qui expliquait comment il a systématiquement défendu, en fait, protégé les intérêts américains contre Airbus. Et aujourd'hui, l'entreprise est en train de passer sous contrôle américain parce que Tom Enders est un atlantiste convaincu et donc il n'a absolument pas préservé l'existence de ce partenariat franco-allemand qui faisait la spécificité d'Airbus. Donc ça c'est le premier point et c'est très grave parce que partir avec 37 millions certes, mais de partir avec 37 millions en ayant cette responsabilité-là sur un fleuron industriel, c'est encore autre chose. Deuxième point ensuite, comment on fait pour éviter ça? Est-ce qu'on empêche les rémunérations? Ils se paieront par dividendes, ce qui sera encore pire pour les entreprises. En revanche, on peut dire Barack Obama, par exemple, avait taxé à 90% les salaires, ce genre de salaire, pour, par exemple, les assureurs AIG. Voilà. C'est-à-dire, le problème n'est peut-être pas d'interdire les rémunérations, mais de mettre en place un impôt qui fasse très mal. Ça nécessite que l'impôt soit universel, comme l'est l'impôt américain. C'est-à-dire qu'on récupère les gens partout où ils sont.
Gilles, ce qui me gêne quand on part du bilan de Tom Enders, c'est que si on arrivait à la conclusion que le bilan était très bon, est-ce que pour autant ça justifierait une telle rémunération? Et donc, oui. En tout état de cause, pour moi, que le bilan soit bon, moyen ou désastreux, rien ne peut justifier des rémunérations de... Donc là, derrière...
Autrement dit, l'argument selon lequel Airbus, qui a réalisé un bénéfice net de 3 milliards d'euros en 2018, n'est pas un argument suffisant.
Non. Je crois que derrière, il y a une question politique fondamentale qui est de retrouver un discours critique sur des dérives du système capitaliste qui fait preuve de plus en plus d'une cécité, d'un court-termisme, du primat, d'une logique financière par rapport à des logiques de long terme, de plus en plus inégalitaire avec une concentration de plus en plus étroite sur un petit pourcentage de la population, c'est vrai dans beaucoup de pays, un peu moins peut-être en France, mais c'est vrai quand même. Donc il faut faire cette critique-là du système capitaliste. Jean Pisani-Ferry a eu cette semaine une formule qui est, je crois, assez juste. C'est trop de concurrence entre les États, trop peu de concurrence entre les entreprises. C'est ça les dérives que l'on voit à l'œuvre. Donc il y a cette question politique. Et puis derrière, Natacha a raison, il y a des questions techniques. C'est comment on fait pour empêcher... Parce que beaucoup a été fait dans le secteur public. On y arrive parce que la gauche a plafonné les rémunérations. Dans le secteur privé, il y a eu des avancées de transparence en amont, des avancées de fiscalité en aval. Mais là, le problème, c'est que, hein, si on veut être précis, c'est que vous avez un patron d'une entreprise cotée en France qui ne respecte pas les règles française parce que le siège de l'entreprise est aux Pays-Bas. Et ben là, il faut, là aussi je dis réponse technique, il y a des réponses techniques possibles. Au Royaume-Uni, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, il y a beaucoup d'imagination de ceux qui veulent contourner. Et ben il faut qu'il y ait autant d'imagination de l'autre côté.
France Inter, Le grand face-à-face, le duel.
Une jeune femme trans insultée, frappée dimanche dernier place de la République au cours d'une manifestation contre Abdelaziz Bouteflika. Julia, cette jeune femme a décidé de porter plainte. Écoutez son témoignage.
Il faut savoir quelque chose, c'est que la violence envers cette communauté, elle est quotidienne, que ça soit verbalement, par des insultes. Si vous regardez les chiffres de toutes les agressions homophobes, transphobes qu'il y a eu ces derniers mois à Paris, c'est pas acceptable.
Et ce qui est très frappant, Natacha, c'est qu'elle témoignait de ces agressions, de ces comportements déplacés au quotidien, tous les jours. « Je suis trans, et alors ?» C'était le titre de une de Libération jeudi. C'est la bonne manière de poser la question ?
En tout cas, il faut se poser la question de savoir comment nous pouvons fabriquer une société qui respecte les individus, qui fait en sorte que il n'y ait pas ces pulsions de haine et d'agressivité vis-à-vis de la différence. C'est tout de même assez consternant de voir que on en est encore là. Simplement, c'est un travail de très longue haleine, c'est un travail d'éducation. Il est petit à petit fait. Je pense qu'il y a des flux et des reflux en la matière, d'abord. J'ai le souvenir, par exemple, de l'affolement autour des ABCD de l'égalité à l'école. J'étais totalement contre les ABCD de l'égalité, mais les délires et les fantasmes qui se sont manifestés ici et là sur le thème « on veut apprendre à nos enfants à être homosexuels », ça faisait très peur. Donc, il faut en permanence faire un travail d'explication. Mais on peut pas croire que ça va se résoudre, hélas, tout de suite.
Gilles.
Bon, je crois que pour tous ceux d'abord qui ont vu cette vidéo, il y a une réaction d'indignation, de dégoût, de quelque chose qui est vraiment moche. D'une femme seule face à une meute et la violence. Après, il y a un paradoxe de la société française qui est une des plus tolérantes et une des plus libérales du monde. Quand on pose les questions sur est-ce que vous considérez que l'homosexualité est une manière acceptable de vivre sa sexualité, on est un des pays les plus libéraux du monde et on est beaucoup, beaucoup plus libéraux qu'avant. Pour la première fois, cette question a été posée en 1975. Vous aviez 25% des Français qui répondaient l'homosexualité est une manière acceptable de vivre sa sexualité. On est à 87% aujourd'hui. Donc d'un côté, la France est un des pays les plus tolérants du monde, et d'un autre côté, les violences envers les personnes LGBT restent très élevées. Peu d'actes qui sont déclarés. L'année dernière, c'est 1000 actes, peu, relativement peu. En revanche, la Fondation Jean Jaurès a réalisé, il y a moins d'un an, une enquête auprès d'un échantillon représentatif de personnes LGBT. Savez-vous combien disaient qu'au cours de leur vie, ils avaient subi une agression homophobe ? Plus de la moitié d'entre eux. Donc c'est exactement ce que dit Julia. Et Julia est un concentré des différents modes d'agression. Les moqueries, les insultes, la violence physique et les attaques sexuelles.